La grande matinale, le mag, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker qui plonge dans la bataille des municipales à Nice. Faut dire, il y a du casting. Avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, la rappeuse Laze. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Le gouvernement publie enfin ses recommandations en matière d'alimentation. Le texte préconise de limiter la viande. Pour les uns, faudrait aller beaucoup plus loin. Pour les autres, il y en a marre qu'on nous apprenne à manger. On en discute tout à l'heure. Mais tout de suite, un grand flic, dans le grand portrait.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Denis Podalydès joue le commissaire Maigret, héros de 75 romans policiers publiés dès les années 30. Pourquoi ça marche, Podalydès en Maigret d'aujourd'hui? Parce que Podalydès, quand il était jeune, faisait toujours un petit peu plus vieux. Et maintenant qu'il vieillit, il arbore ce petit air juvénile qui fait de lui un type sans âge. Suranné et résolument moderne à la fois, c'est dans ses cordes. Et puis Podalydès incarne l'homme français par excellence. Autant Rouletabille que Maigret, autant Gaston Leroux que Georges Simenon, autant Molière que Corneille. L'acteur a été traversé par des centaines de textes de la langue française. Autant de voix, autant de visages, autant d'époques. Dans sa propre histoire d'ailleurs, coexistent et chahutent aussi plusieurs Frances. Mais comme dans une enquête du commissaire Maigret, à la fin, il faut recoller les morceaux. Portrait numéro 90. Vous savez que là, il y a des milliers et des milliers de gens qui sont en train de conduire leur voiture ou prendre leur petit déjeuner ou de commencer à travailler, qui entendent ces quelques notes et qui instantanément replongent dans les années 80.
Oui.
C'est votre cas aussi?
C'est mon cas et je l'ai même pas, ce thème-là, je ne l'ai pas entendu pendant toute la préparation de Maigret.
C'était le Maigret joué par Jean Richard.
Bien sûr, et c'est le premier que j'ai connu. Je ne dissociais pas Jean Richard de Maigret, Maigret de Jean Richard. C'était un rendez-vous hebdomadaire.
À la télévision.
Ce que c'est qu'une enquête et la voix de... qui avait quelque chose de, qui était un peu lisse de Jean Richard qui nous berçait. C'était une façon de... presque de s'endormir.
Alors, vous êtes un nouveau Maigret dans le film, écrit et réalisé par Pascal Bonisère, qui sort mercredi au cinéma, Maigret et le mort amoureux. Je vous le dis, c'est un absolu délice, de la première à la dernière scène. Tous ces dialogues sont des moments absolument enchanteurs. Et puis, on en dira un mot aussi. Vous êtes en pleine répétition, Denis Podalydès, du Cid que vous reprenez en tant que metteur en scène à la Comédie Française à partir du 26 mars, et ça sera même au Théâtre de la Porte Saint-Martin, parce qu'à la Comédie Française, la scène se casse la gueule et qu'elle est en pleine répétition. Écoutez Bruno Kremer. Bruno Kremer, c'est lui qui a repris le personnage de Maigret après Jean Richard.
C'est un personnage un peu abstrait, c'est un personnage qui peut être interprété par beaucoup d'acteurs différents. J'espère qu'après moi, il y en aura d'autres qui s'amuseront à le faire, parce que c'est un personnage très attirant, très mystérieux, et qui a un très grand pouvoir. On sent qu'il est construit de telle manière à être impressionnant, à être... par exemple, quand l'acteur arrive sur le plateau, il se passe quelque chose, davantage que dans d'autres films. Maigret, c'est un mythe.
Maigret, c'est un mythe. C'est intéressant ce qu'il dit, Bruno Kremer, parce qu'il dit « quand Maigret arrive, il est impressionnant ». Et ça a toujours été interprété par des metteurs en scène comme un personnage physiquement impressionnant, qui occupe l'espace, qui est corpulent, qui est bâti, qui est massif. C'est pas votre cas.
Massif, oui, c'est le seul adjectif qu'emploie, je crois, Simenon, pour décrire Maigret, qui n'est jamais décrit, dont les traits du visage, par exemple, ne sont jamais décrits. Et j'étais très surpris quand Pascal Bonisère me l'a proposé, parce que c'était l'idée que j'avais de Maigret. Je le sais, mais je n'ai rien de ses caractéristiques.
Et rien de Depardieu, rien d'Haribord, rien de Jean Gabin, rien de tous ceux qui ont joué Maigret.
J'avais Jean Gabin, beaucoup, parce que j'avais revu Les Maigret avec Jean Gabin, et je me sentais très éloigné de ça, et Pascal me dit, ben non, c'est à toi que je le propose, c'est bien à toi. Et puis ensuite, j'ai dit oui, et puis John Simenon est venu sur le plateau, le fils de Simenon, et c'est lui qui m'a dit ça, vous savez, on a fait de Maigret une figure massive, mais en fait, n'importe qui, n'importe quelle figure, n'importe quelle silhouette peut endosser Maigret. Maigret, c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est ?
Voilà. Faire le poids. Je me suis dit, on utilise cette expression.
Oui.
Faire le poids.
Mais c'est probablement, il y a toute une vision peut-être idéologique aussi, oui, dans cette idée-là, qu'il faut, pour que le personnage soit impressionnant, il faut que ce soit un homme massif ou corpulent. Ça peut pas être un petit homme... pas tout à fait, moi je ne suis pas, je suis plutôt petit, si, mais...
Mais voilà. Ce corps-là, oui, d'acteur, qui est le vôtre, et qui a toujours été le vôtre, c'est comment dire, c'est un corps facile pour un acteur, ou c'est un corps difficile pour un acteur ?
Alors jeune, j'étais très embarrassé de mon corps. Je faisais des auditions, je me couvrais d'un grand manteau en espérant qu'il descende jusqu'aux pieds pour dérober ma...
Trop freluquet ?
Oui, je me sentais... D'ailleurs, j'avais une des premières critiques que j'ai reçues, il n'a pas les épaules pour... Ouais. Et je me rappelle de ça. On voyait les acteurs ou les personnages comme des héros et on voulait leur donner de la stature. Très tôt, j'ai compris que je ne serais pas ça. Et puis ensuite, c'est des rôles qui m'ont délié. Et le temps aussi qu'il a fait. Qui fait que j'ai résolu ce problème, pas vraiment de manière ni sportive, ni pliant à je ne sais quelle technique. Mais une acceptation de soi, oui, ouais, plutôt.
Le Quai d'Orsay vient de m'appeler.
Et c'est pourquoi ?
Je ne sais pas, sauf que c'est urgent.
Commissaire Maigret ?
Je dois vous avertir que l'affaire est sensible. La victime n'est pas n'importe qui. C'était l'un de nos plus brillants ambassadeurs. Mademoiselle Larieux est à son service depuis 40 ans.
46 ?
Vous n'avez pas appelé la police ?
Je devais d'abord prévenir le ministère. C'est ce que ma conscience m'a dicté. Je suis suspecte ?
Personne n'est suspect, tout le monde l'est, mademoiselle.
Ma mère lui vouait une sorte d'amour mystique.
Pendant 50 ans, j'ai eu l'habitude de vivre avec lui, en pensée.
Bizarre,
non ? J'espère que vous trouverez la canaille qui a fait ça.
La canaille qui a fait ça.
La canaille, le mot d'un notaire, séquence, oui, exceptionnelle. Mais en réalité, tous les acteurs sont exceptionnels dans ce Maigret et l'écriture de Bonitzer est absolument parfaite. Il n'y a que des moments de dialogue, de haut vol quand vous êtes en face de Michel Lescaut qui est une sorte d'antiquaire obsessionnel et très antipathique. quand vous êtes face à Anne Alvaro, que vous connaissez depuis longtemps et avec, oui, qui vous avez déjà joué, qui est enfermée dans son chignon et son crucifix et qui répond à chacune de vos questions par une autre question, ce qui, oui, est absolument, oui, exaspérant pour le commissaire. C'est une plongée quand même, on va dire, dans la psyché d'une femme catholique, oui, et d'un milieu.
D'un milieu, oui, il y a ça toujours chez Simenon.
Emprunt Maigret, de catholicisme.
Exact, Maigret pénètre un milieu et il a cette faculté de s'y sentir, même si ce n'est pas du tout le sien, même si tout l'oppose à ce milieu, de s'y sentir à l'aise, comme s'il y avait un sociologue en lui qui percevait les lois inhérentes à ce milieu. Et donc il est sans haine, sans jugement, avec un instinct qui le guide. Un simple instinct. D'ailleurs, Pascal le disait, c'est pas un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui construit une théorie, c'est quelqu'un qui avance selon son goût, selon la saveur des
Quelle
choses.
Quelle différence il y a entre Maigret et Colombo ?
Ah, je pense que c'est pas des personnages éloignés l'un de l'autre. Hein. Et je crois que le plaisir du spectateur dans Colombo comme dans Maigret est un... Est-ce que c'est le même ? Je
suis... C'est de pénétrer un
Mais
milieu
à chaque
social.
Fois, vous pénétrez, quand on se rappelle de Colombo, c'est l'entrée de Peter Falk, généralement dans un grand salon, chez quelqu'un très riche, très cossu, très sûr de lui, et il va lézarder peu à peu le.
Et puis l'attachement à l'épouse, à Madame Colombo.
Ah, ça c'est très
et
important.
À Madame Maigret.
Madame Maigret, qui est jouée par Irène Jacob.
Voilà. Et là, donc, vous entrez dans ce milieu de la grande bourgeoisie et même de l'aristocratie. Dans ce milieu, on l'a dit, empreint de catholicisme, et ça c'est représenté par un Alvaro avec son crucifix du début jusqu'à la fin, je ne raconte pas la fin, de ce Maigret. Vous avez vous-même grandi dans une famille catholique, oui. Denis Bonalides.
Oui, oui, qui n'était pas aussi austère que ça, que l'est dans le film, pas aussi... là, c'est, on est presque dans le genre tradit, on est presque Saint-Nicolas du Chardonnay.
Ouais.
Moi, c'était...
Et les catholiques de Versailles?
Alors, il y a des catholiques traditionnels à Versailles, mais moi, c'était pas ça. On n'était pas au Scout d'Europe, on était au Scout de France. On n'était pas au Scout de France. Oui, on était au Scout de France. vous voyez, on n'était pas les scouts militaires, quoi. Loin de là. Mais c'était un milieu catholique, tout à fait catholique. J'ai grandi l'odeur de messe, le froid des églises, le fait de s'asseoir, se relever, se rasseoir et se relever. Ça, à la messe, l'ennui un peu dominical de la messe, je connais ça très bien.
Et l'idée que le catholicisme ne peut pas être... Enfin, qu'il ne peut pas y avoir d'autres religions que celle-ci.
Ah oui, que c'était là, on disait la religion.
La religion.
Oui, oui, on disait pas les religions. C'est même tard que j'ai pu penser qu'en fait, il y avait trois grands monothéismes. J'en avais pas idée. Il y avait Dieu, Jésus, et puis la Sainte Vierge. Enfin, il y avait une trinité, quoi.
Écoutez Georges Simenon, écoutez sa voix.
Au fond, l'homme a une grande tendance, je crois, à avoir honte de lui-même. Et ce qu'il cherche dans le roman, dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma, c'est de voir d'autres personnes ayant les mêmes faiblesses, les mêmes lâchetés que lui. Il veut savoir si le voisin est bâti comme lui, de la même chair très faible, avec les mêmes petits travers, les mêmes stupidités, les mêmes petites saletés. Et quand il s'aperçoit que ça existe, il se dit « Mon Dieu, je suis tout le même, donc pas si mal que ça ». Et ça peut bien l'encourager à supporter le reste de sa vie.
C'est beau, je trouve ça très très beau.
Et très juste.
Et très juste. Le roman est fondé aussi sur la honte, et la honte de soi, et de la recherche, et l'indulgence pour la faiblesse humaine. Mais c'est vrai que Maigret, il a le sens de la faiblesse humaine.
Il a ça. Et il y a un moment absolument incroyable, c'est la rencontre avec une des descendantes d'une famille, d'une lignée princière de l'aristocratie, qui est jouée par Dominique Rémy,
oui,
de la Comédie Française.
Ah non, Dominique, non, elle pourrait tout à fait y être.
Ah, je croyais.
Elle aurait pu y être, je crois même que ça lui a été proposé.
Elle l'a jamais
mais
été.
Mais parce qu'elle avait d'autres envies, d'autres engagements.
La rencontre entre la princesse et Maigret, c'est un très très grand moment de dialogue, de cinéma. Et je me disais aussi, c'est un moment très étonnant, parce que, en réalité, on touche du doigt la différence entre la bourgeoisie et l'aristocratie.
Ah oui, oui, oui.
Une aristocratie qui se permet tout.
Qui se permet
et
tout.
Et qui envoie valser les petitesses de la bourgeoisie. Et les questions que pose Maigret, c'est oui, des questions de bourgeois et de petits bourgeois. Les réponses que lui font la princesse.
Oui, 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 oui. C'est parce qu'elle obéit à une autre autorité, à une loi qui est une loi intérieure. C'est comme la noblesse d'Ancien Régime qui ne pouvait pas comprendre que le peuple puisse avoir voix au chapitre. Les gens ne parlent pas.
Et j'en reviens à cette enfance et cette jeunesse versaillaise. Je me disais, quel lieu formidable pour observer la différence entre la bourgeoisie, la grande bourgeoisie et l'aristocratie. Tous ces petits détails de la culture française,
oui,
réunis en un seul lieu. Et pourtant, il y a comme des fossés culturels entre chacune de ces couches.
Ah oui, oui, oui. Mais moi, j'ai le sentiment de classe, de manière très presque marxiste, en fait, j'ai l'impression de l'avoir eu très très tôt. De sentir
pourquoi
qu'il y a... Parce que je percevais des différences. Par exemple, ma propre famille, notre femme de ménage, je sentais, on l'adorait, et je sentais qu'on n'était pas... mais je le sentais pas de manière confuse. Je le percevais qu'il y avait des choses pour nous et des choses qui étaient pas pour elle. Et parfois, on franchissait... Heureusement, on établissait des passerelles. Mais il y avait de même qu'entre moi et certains camarades, je sentais qu'ils avaient une autre façon de vivre et presque d'autres valeurs. Mais je ne savais pas... je ne savais absolument pas pourquoi le monde était fait comme ça. Et alors, le catholicisme, c'était une sorte de moyen de rallier tout ce monde-là.
Mais moi, je me suis demandé, Vous, de quel milieu exactement vous étiez composite et sentiez, c'est ça?
Je sentais, parce que du côté de mon père, c'était une petite bourgeoisie coloniale. Mon père est né en Algérie. Son père, il avait perdu son père assez jeune, qui était grec, il venait d'Alexandrie, puis avant de Grèce. Et ils étaient, après la guerre d'Algérie, ils étaient complètement ruinés. C'était donc une toute petite bourgeoisie. Et du côté de ma mère, c'était une bourgeoisie commerçante, beaucoup plus aisée, mais c'était pas de l'aristocratie. C'était aussi, il y avait une origine paysanne et commerçante dans Paris. Et ça se distribuait souvent dans les étages, les immeubles. Vous aviez, curieusement, les gens les plus pauvres habitaient les chambres de bonne.
Sous les combles.
Et plus vous descendiez, plus c'était cossu. Et nous, on a varié un peu entre les étages, mais on était dans un immeuble qui appartenait à ma grand-mère.
Vous avez écrit un très très joli texte l'année dernière qui s'appelle « L'ami de la famille » que vous avez publié chez Julliard, que vous avez consacré au sociologue Pierre Bourdieu.
Ah oui.
Et vous avez fait, d'ailleurs vous l'avez aidé dans un de ses livres, qui est un de ses livres les plus importants, vous avez fait de l'enquête sociologique ou de l'enquête de terrain.
Oui.
Là, vous dites que, justement, le fait d'être issu d'un milieu composite fait que vous avez été tiraillé entre plusieurs voies et que vous êtes resté longtemps, vous l'écrivez dans ce livre, étonné, indécis, ahuri, sans savoir laquelle adopter, sans savoir laquelle habiter. En réalité.
Oui.
Et qu'au fond, ça vous a collé peut-être longtemps comme étiquette, cet acteur un peu
éberlué. Hurlu-berlu. J'ai eu ça très très longtemps. Si je disais une critique, j'étais le mot hurlu-berlu arrivait assez vite ou ahuri. Et j'en rendais responsable mes yeux qui sont un peu ronds. Jeune, on parlait tout à l'heure des difficultés d'avoir ce corps-là.
De s'imposer sur la scène.
Exactement. Et donc ça faisait partie des choses que, implicitement, mais je me reprochais, mais il y a une forme de narcissisme aussi là-dedans. C'est l'âge où on se regarde dans la glace en se demandant, mais qui je suis? Heureusement, je ne fais plus ça, vraiment, je ne fais plus du tout ça. Mais c'est lié effectivement à cette... Est-ce que je peux dire que c'est un inconfort de classe? Non, parce que c'est pas du tout comme Annie Ernaux où il y a vraiment une opposition très forte entre la classe de départ et disons la classe d'arrivée où elle arrive en étant enseignante puis écrivaine. Moi, c'est des classes qui sont plutôt rapprochées, mais cette façon de ne pas être que le monde auquel on appartient n'est pas un monde en fait naturel. Quelqu'un qui naît bourgeois, fils de bourgeois, petit-fils de bourgeois et qui sent que toute sa vie sera dans ce milieu-là, il a la sensation que ces structures mentales et les structures sociales, que vraiment elles vont ensemble et donc le monde est naturel. Et quand vous sentez que c'est pas tout à fait ça, ça crée un étonnement devant le monde, une façon de ne pas être au monde de façon tout à fait équilibrée.
Et là, en ce moment, vous répétez le CID. Vous êtes le metteur en scène du CID. Benjamin Laverne sera l'un de vos acteurs sur la scène du Théâtre Saint-Martin. Ça commence le 26 mars. Et je me suis dit, le CID, on s'attaque au CID. Il y a encore des voix du CID qui résonnent. La voix de Jean Villard, la voix de Gérard Philippe.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, on met les pieds à Avignon, on les entend encore jouer le CID, non?
Ah, je sais pas. Moi, je dois dire, j'ai été, mais même en tant que jeune acteur, élevé par la voix de Jean Villard, notamment, que j'adorais, que j'écoutais tout le temps, mais vraiment. Et la voix de Gérard Philippe, notamment, percée jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Là, je le caricature, mais.
Un peu.
Ah, totalement. Mais c'est très beau parce qu'en fait, il y a un chant profond, un chant intérieur, alors qui est à la fois très démodé, parce que c'est une voix d'un autre temps, et en même temps, il y a une espérance dans la langue, une sorte d'illumination par le langage, où le héros se révèle à lui-même, et comme Gérard Philippe et le TNP, après la guerre, se révélaient à travers ces personnages, qui étaient des personnages solaires, lumineux, exaltants, même si dans le fond, l'histoire est très cruelle, qu'il est question de... Il y a beaucoup de massacres dans le Cid. C'est, vous savez, c'est ces histoires françaises à la fois très très héroïques qui semblent faire lever les cœurs et en même temps qui sont faites de massacres, de cette
cruauté.
D'une grande cruauté, comme ouais. Cyrano de Bergerac. Ces grandes pièces, lieux communs. Où on a l'impression qu'une nation se retrouve. C'est à la fois complètement assez vrai historiquement, mais complètement faux par rapport à la pièce. C'est aussi ce que la République a fait de ces œuvres-là, en les mettant au programme des telles classes, qui fait que des générations d'enfants, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, connaissent des tirades du Cid, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. C'est souvent ça, c'est la culture scolaire, c'est des bribes de choses qui fait qu'on connaît. Et puis en fait, nous, quand on les met en scène, quand on les présente sur scène, notre travail, c'est de retrouver la pièce elle-même.
C'est ça.
Et pas le commentaire sur la pièce.
Je ne pense pas qu'un homme qui a été tiraillé très longtemps dans sa vie fasse du Cid un lieu commun.
J'espère.
Merci. Merci tellement. Merci Denis Podalydès.
Merci.
Alors, mercredi, donc, Maigret et le mort amoureux. Ça, c'est le délicieux Maigret écrit par Pascal Bonitzer.
Voilà.
Le Cid, c'est à partir du 26 mars au Théâtre Saint-Martin. Et si on veut lire le texte que vous avez écrit, formidable, sur Pierre Bourdieu, eh ben, on achète
beaucoup.
L'ami de la famille.
Ouais, oui, parce que Pierre Bourdieu, Maigret, j'ai beaucoup pensé à Pierre Bourdieu en jouant Maigret. Ouais.
Merci Denis Podalydès.
Merci beaucoup.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay.
J'espère que grâce à moi et à ce choix magnifique de Kings, Sunny Afternoon, grâce à moi et grâce à Valentine Chedebois qui choisit les disques tous les jours, vous aurez le sourire toute la journée parce qu'on adore cette chanson. Voilà, après-midi au soleil dans le Mac de la Grande Matinale pour aller jusqu'à 10h. Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter, c'est le carnaval de Nice en ce moment. Ou ce qu'on appelle plus communément là-bas, les municipales. voilà, le duel Ciotti-Estrosi, ma vie.
Un régal.
Bonjour, bonjour. Moi, je vais remettre du soleil derrière et je vais vous présenter une rappeuse, une grande rappeuse. Elle s'appelle Laze. Je l'adore. Absolument, je vous la présente.
Et il est 9h30 sur France Inter et c'est le débat du jour.
J'avais pensé à agrémenter chaque table d'un grand bol de fruits de saison.
Oh.
Des noix, des raisins.
Oui, Bord, c'est très intéressant, d'accord. Benek, qu'est-ce que vous aviez prévu? Autre chose que des fruits de saison, non?
Affirmatif, de la viande et de la viande cuite dans sa graisse.
Oh, voilà.
Forcément.
Voilà, ça c'était un extrait de Kaamelott. Et moi je vous propose un retour très sérieux sur un document qui fait beaucoup réagir. Il définit l'action du gouvernement d'ici à 2030 pour une alimentation saine et moins émettrice de gaz à effet de serre. Le texte préconise, je cite, une limitation de la consommation de viande et de charcuterie. Évidemment, la phrase ne satisfait personne. Fallait-il aller beaucoup plus loin? Si oui, est-ce un adieu au repas dit à la française?
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Voilà, ça faisait 2 ans qu'on attendait ce document, hein, source de controverse, la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Et pour en discuter, je reçois Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Députée écologiste de Paris, face à vous Perico Légas, bonjour, qui est notre confrère sur Sud Radio, animateur de l'émission La France dans tous ses états. Et évidemment, vous êtes, on le sait bien, un ardent défenseur de nos savoir-faire. Absolument. Et du savoir-vivre qui va avec. Sandrine Rousseau, je commence avec vous. Rappelons que l'alimentation représente, on va dire, près d'un quart de l'empreinte carbone des Français. Limiter la consommation de viande, comme le demande le gouvernement dans ce nouveau document officiel, est-ce que c'est simplement du bon sens, un levier majeur pour décarboner le pays?
C'est un levier absolument majeur, c'est un levier indispensable. Toutes les études qui nous projettent en 2030 ou en 2050 avec moins d'émissions de carbone prévoient une diminution de la consommation de viande, dont je rappelle qu'elle est aussi source de déforestation. C'est-à-dire que c'est pas juste la consommation directement, c'est tous les effets de cette consommation. Et en fait, là, dans le document, et vous disiez en introduction que ça ne satisferait personne, et évidemment.
Non, on ne lit que des critiques.
Parce que limitation, c'est un terme assez flou. L'ADEME, le GIEC, les chercheurs sur le climat disent qu'il faudrait que nous divisions par 3 ou 4 notre consommation de viande. Ça ne veut pas dire arrêter tout. On peut en discuter. Ça ne veut pas dire arrêter tout, mais ça veut dire vraiment diviser par 3 ou 4 notre consommation de viande. Et en fait, c'est le geste, je le rappelle, le plus simple et le plus efficace. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire, quel que soit son niveau de revenu, son âge, qu'il habite en ruralité ou en ville. Qu'il soit homme ou femme, mais par contre c'est le plus efficace, c'est même plus efficace que d'arrêter la voiture, c'est assez incroyable.
Division par 3 ou 4, donc en effet le terme limitation n'indique pas du tout une réduction aussi drastique. Perico Légas, comment vous avez reçu cet appel à limiter la consommation de viande?
Enfin, le gouvernement donne des consignes de comportement alimentaire. Ça s'arrête là.
Ça déjà c'est une bonne nouvelle.
Voilà. Bon, alors, non seulement ils ne sont pas allés assez loin, mais ils ne disent rien, ils ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. C'est le gouvernement des lobbies. Alors, jamais la dissolution n'a donné autant de pouvoir aux lobbies qu'avec ces trois gouvernements, de pire en pire. Avec les LR aux manettes d'enjeux économiques et alimentaires par l'agriculture, par le Premier ministre, si on met le doigt sur un problème qui est le problème de la surconsommation, l'alimentation, la malbouffe, on s'attaque aux vrais problèmes, on met les mots. Mais comme ce sont les amis des lobbies, le système alimentaire français est très simple. Vous avez une agro-industrie qui importe des produits interdits en Europe souvent et qui les transforme, une grande distribution qui importe aussi des produits interdits parce qu'ils sont moins chers et qui distribue, comme son nom, les grandes surfaces. Et puis, troisième ami collatéral, le lobby pharmaceutique, qui vend des médicaments parce que comme cette malbouffe importée massivement engendre des maladies gigantesques, gravissimes, le lobby pharmaceutique...
Sandrine Rousseau, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes d'accord?
Je vous avais dit qu'on serait... Le lobby pharmaceutique s'enrichit, détail aggravant, en France, aux États-Unis, vous payez votre cancer et votre diabète. En France, c'est la collectivité qui paye la maladie qui enrichit le lobby pharmaceutique parce que l'agro-industrie et la grande distribution ont importé massivement...
Et ben ils ont un point d'accord, Sandrine Rousseau et Perico Légas.
Et qu'on dit aux gens surtout, allez-y, c'est le moins cher, continuez à manger moins cher, ça vous donne une petite marge dans votre budget pour consommer un peu plus des produits dont vous n'avez peut-être pas forcément besoin. Et ce lobby-là est aux commandes aujourd'hui au gouvernement avec des ministres complices, je le dis en toute sérénité, je les connais, voilà, ce sont des LR, c'est un accident politique.
Sauf que vous dites depuis des années, il ne faut pas manger moins de viande, il faut manger une meilleure viande. Vous le dites depuis des années.
Moins mais mieux. D'abord, la devise de la vie est...
Mieux surtout.
Sandrine Rousseau est d'accord, rien de trop, pas d'abus, surtout pas de la malbouffe. Le Nutri-Score que l'Assemblée nationale a refusé de valider. Et pourtant, Sandrine Rousseau et ses amis, et mon ami Richard Ramos...
Nous l'avons soutenu.
Voilà, et c'est le RN qui, soi-disant, défend le peuple et les pauvres, qui s'est opposé au Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est juste une information pour le consommateur. Je vais mettre des points sur les i, Sonia.
Mais vous voulez bien parler de la viande?
Je vais parler de la viande. Le Nutri-Score, C'est juste une information aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, de leur dire, si c'est rouge, attention, n'en abusez pas. On peut manger de tout, rien n'est interdit. Faites attention. La viande, et là, Madame de Villers, je vous dis quelque chose de précis, c'est le retour du repas à la française, parce que c'est lui qui est porteur des codes et des morses de la bonne alimentation. Un repas équilibré. Et donc, je défends, et là, je vais dire à Sandrine Rousseau, je vous propose une viande éthique, écologique, de la viande française, élevée, nourrie à l'herbe, correctement, abattue décemment, fait par des éleveurs, des paysans qui aiment la terre, qui aiment leurs animaux. C'est une petite minorité, mais comme il faut baisser notre consommation de viande en France, drastiquement, peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on ne mangera plus de viande. Je vénère Claude Lévi-Strauss qui a dit peut-être qu'un jour, la consommation de viande par l'espèce humaine sera un souvenir. Et si un jour ça arrive, eh bien on vivra d'autres choses. Moi, je crois que les pauvres ont droit à manger de la bonne viande, que les ouvriers, que les prolétaires, j'utilise des termes anciens, ont
non,
droit
non,
de manger...
Non, c'est pas des termes anciens, c'est des termes très justes.
Voilà, ils ont droit de manger de la bonne viande française.
Et vous mettez quand même le doigt sur le fait que la bonne côte de bœuf, ça vaut une fortune et que tout le monde ne peut pas se la payer.
Alors, il n'y a pas que de la côte de bœuf, vous avez les morceaux avant, je suis venu avec les prix, parce que je suis toujours sur les prix. La grande distribution importe des viandes de Pologne, d'Allemagne, produites dans des usines à viande, avec des animaux qui n'ont jamais vu le jour, dans des étables nourris avec du soja, souvent d'origine OGM. Ça, c'est de la saloperie. Je ne vais pas utiliser le mot grossier comme Jean-Pierre Coff, au côté duquel j'étais pendant 3 ans sur cette antenne. Ça, c'est de la saloperie et on la vend aux pauvres en disant c'est pas cher, vous pouvez y aller. Non, on va avec le même budget de viande, on va dire 100 euros par mois. Au lieu d'en manger 12 fois, je vais en manger 4 fois ou 5 fois, mais ça sera de la bonne viande qui me fait du bien, qui nourrit le producteur, qui rétribue le producteur et qui respecte l'animal et qui est bonne à manger. Voilà.
Sandrine Rousseau, une côte de bœuf, ça reste quand même une côte de bœuf.
Oui, alors après...
Qu'elle soit farcillée, bien nourrie...
Vous avez de la bavette et du rumsteak.
Non, mais bien, la bavette et le rumsteak.
Enfin, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Ouais. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des animaux que nous mangeons sont des animaux qui proviennent d'élevages intensifs. Ces élevages intensifs sont ignobles et sont indignes de ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que les animaux, dont on sait qu'ils ont une capacité subjective à se penser, une scientience, qu'ils ont des émotions, du stress, etc., eh bien, ces animaux sont parqués dans des conditions de vie qui, objectivement, sont honteuses. Honteuses. Que ce soit les poulets, que ce soit les cochons, que ce soit les vaches.
Vous êtes d'accord?
Sur
oui, ça m'intéresse.
Aujourd'hui,
c'est près de 9 animaux sur 10 qui sont élevés dans ces conditions-là. Donc en fait, quand on dit diminuer la consommation de viande, déjà interdisons l'élevage intensif, ce qui serait la première des mesures à faire. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui nous développons, au contraire, et la loi du plomb en est le premier indice.
Bien sûr.
On développe l'élevage intensif, puisque dans la loi du plomb c'est passé un peu inaperçu, mais il y a un article qui dit qu'on a le droit d'augmenter la taille des élevages sans aucune espèce d'autorisation. Et donc c'est cet élevage-là qui est privilégié, où les animaux sont juste des sont des objets de la production et ne sont pas des êtres vivants, sentients, respectables et respectueux. Et donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, sur une
côte de bœuf... J'ai invité deux fous du micro à débattre.
Ah, c'est un sujet passionnant.
Ah, c'est absolument passionnant et c'est joyeux. Moi, j'aimerais quand même qu'on pose cette question culturelle, parce que derrière, il y a un modèle culturel qui est une tradition française. Perico Légas dit, il faut revenir à une bonne viande consommée en conscience. Ça, c'est le repas à la française. Vous avez prôné pendant très longtemps, Sandrine Rousseau, le fait de porter ce débat dans la sphère culturelle, de dire c'est une bataille culturelle.
Absolument.
Et peut-être qu'il faut changer de modèle culturel dans son rapport à la viande.
Oui, mais changer de rapport culturel, c'est changer de rapport culturel à la viande, du coup aux animaux, parce que la viande, ça reste des animaux morts, hein, je le rappelle. Oui. Donc de la viande aux animaux et aux producteurs. Parce que ce que vous disiez est aussi très juste, c'est que les éleveurs sont ceux aujourd'hui qui gagnent le moins dans la profession des agriculteurs et des professions agricoles. Donc en fait, oui, il y a une bataille culturelle à mener pour qu'une entrecôte ne soit pas je ne sais plus ce que j'ai dit d'ailleurs, un signe de virilité ou je ne sais plus comment je l'ai...
Mais c'était...
Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, les hommes mangent plus de viande que
virilité.
Un symbole de virilité.
Ça vous avait valu une sacrée passe d'armes avec Fabien Roussel du Parti communiste.
Oui, et puis surtout 3 ans de cyberharcèlement pour juste avoir dit, attention, les hommes mangent plus de viande que les femmes. Et par ailleurs, il y a aussi toute une connotation symbolique derrière la viande qui est qu'on se pense comme carnassier, et qu'en fait on pose les carnassiers comme en
haut de l'échelle des hiérarchies et que donc ça facilite tout un imaginaire où nous serions les maîtres du monde. Et en fait, c'est en cela que diminuer la viande, c'est aussi repenser les codes sociaux qu'il y a autour de la viande. Non, la viande ne donne pas de force, pas plus que des protéines végétales. Non, manger du sang ne rend pas plus homme ou plus viril. Après, moi je suis végétarienne. Après, si des personnes veulent diminuer de 3 à 4 fois leur consommation de viande, commençons par cela. Mais en tous les cas, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer dans la consommation de viande telle que nous sommes aujourd'hui. Et ça teste notre capacité à vraiment faire le virage de l'écologie.
Paradoxe des paradoxes, Sonia de Villers, je suis obligé de soutenir le Parti communiste face à Sandrine Rousseau. Et dire que Fabien Roussel avait parfaitement raison. Sandrine Rousseau, le consommateur de viande en France n'est pas un mâle blanc de plus de 50 ans. Pas tous. J'ai autour de moi des jeunes femmes aussi délicates et soucieuses que vous de respecter la nature qui mangent de la viande avec plaisir parce qu'elles savent, que c'est la bonne viande.
C'est 50% de plus.
Et nous ne sommes pas des carnassiers. Ne nous enfermez pas dans une idéologie, Sandrine Rousseau.
Non mais là, je parlais des humains.
Alors nous sommes.
Non mais là, c'est vous qui caricaturez.
Non.
Les humains se pensent.
Je vous réponds mot à mot. Nous sommes des omnivores. Nous sommes des omnivores, nous sommes sensibles à différentes sensibilités sur le plan confessionnel, politique, culturel et alimentaire. On a des mœurs différentes. Donc je me bats à vos côtés, à côté de L214, avec qui je me confronte souvent, pour les remercier de nous avoir ouvert les yeux sur des abominations qui se produisent sur le territoire français. Voilà.
Et grâce L214, à c'est cette ONG.
C'est l'association qui monte les films terribles où on voit des animaux torturés. Voilà. Ouais. Donc nous allons évidemment évacuer cette production industrielle qui appauvrit l'agriculture française, qui ne payent pas les agriculteurs. On a vu grâce à la dermatose que ce sont des petits élevages qui sont touchés. On abat l'élevage en totalité. C'est pas les grandes usines à barbac importées. Vous savez, pour contourner la réglementation européenne qui est malgré tout sévère, ils ne passent plus par Le Havre ou par Marseille, ils passent par Rotterdam, parce que comme la Hollande, les Pays-Bas, est un paradis fiscal qui est une passoire.
Mais à terme, l'idée, c'est de réapprendre notre tradition, de réapprendre ce savoir-faire et ce savoir-faire du repas à la française et de la place de
avec
la viande.
De l'éthique, Sonia Villers, avec
de l'éthique. De la place confiance, de la viande dans notre
voilà, préservation de l'environnement, respect de l'animal, respect du producteur, et autour de la table un bon moment de convivialité
absolument,
où on peut se réconcilier
mais je voudrais juste,
les uns les autres.
Je voudrais juste dire que quand on parle de tradition, pendant longtemps en France, on a mangé de la viande une fois par semaine. Hein, et dans les repas familiaux, il y avait juste un morceau de lard dans la soupe pour donner du goût.
Ça c'était le dimanche.
Oui, donc en fait, la tradition, il faut l'interroger aussi. C'est-à-dire que la tradition, elle n'était pas de manger de la viande à tous les repas, en entrée, en plat et à tous les repas de la journée. Pas du tout, du tout. Donc en fait, il faut interroger ça. On peut avoir des moments de bons repas, mais le repas quotidien peut aussi se faire avec des protéines végétales. Aujourd'hui, on mange deux fois trop de protéines en regard de nos besoins. Deux fois trop.
La tradition, c'était manger ce que la terre et la campagne donnaient chaque saison. On respectait
absolument
la saisonnalité de façon raisonnable. Il y avait les riches
qui mangeaient de la viande. Et moi, je trouve que retrouver le sens de cette nourriture de saison, de cette nourriture respectueuse, c'est aussi retrouver, se respecter nous-mêmes et respecter la planète. Et en fait, c'est un débat philosophique.
Donc les grands distributeurs sont nos ennemis, et quand on dit aux pauvres vous allez manger du poulet ukrainien élevé dans des élevages de merde à 1 million de bêtes, ben, ça c'est contraire.
Mais en Vendée, il y a aussi des élevages de merde.
Bien sûr, mais surtout quand on les importe.
Perico Légas et Sandrine Rousseau, vous faites un duo magnifique.
On reviendra.
Merci. Ah mais oui, vous reviendrez. Merci à tous les deux d'avoir débattu de cette question cruciale et encore non résolu sur la limitation, la réduction ou l'éradication de la viande dans le repas français sur France Inter.
Chop, elle fait chop business à tout moment où on balançait. Chop à go tout tout tout, c'est mauvais temps. Nous hop donc yo les piges et si la détente. C'est la nuit plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça ni en tête. Mais j'en connais nos cafés papa. C'est nègre là pas aimé ça. 450YFZ, tout connaît ici à CNF7. Faut manger aussi au jour on y les contacts. Faut pas y faire tête pour échapper. Maman me touche comme si je suis plus là. Elle me sert dans ses bras, elle est au plus bas. Avant il m'en faut Henri Fekaila. Pour moi combien fois y'a lui me laïta. La rue a pas qu'à jouer moi des zaza. Mais des rangettes qui baillent pour tout le monde baila. Sauf la nation où ça veut nous ni ça là. Je vais être quelqu'un quand elle est à Gaza. Comme c'est funny, chante la 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 la. Mon fouet pouti la en gla 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 gla. Pas moi en winner ou en dompé. Diamant de la saison et qui est donné. Chop, fait chop business à tout moment où on palaçait. Chop à go tout tout tout, c'est mauvais temps. Nous hop donc yo les piges si la détente. C'est les nids plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça ni en tête. Mais j'en connais donc à faire papa. C'est nègre là pas aimé ça. Chop à l'avait chop business. 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 Oh na 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 na. Je serai prêt à l'envie à cauchemar. Faut moins soleil qu'on chaîne. Mais on est tient donc au sens et qu'on ressort. Maman lève-nous à l'église. Mais t'es à méchant. Alors bien sûr nous garder les passes. Mais pas arrêter en fond de car ici à passe. Les choppes, les fait choppes. À tout moment où on peut laisser. Je sais pas qu'au tout 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 c'est mauvais temps.
Le choix musical de la grande matinale aujourd'hui, c'est la Martiniquaise Meryl. Meryl qui chante business, qui sera en concert à l'Accor Arena de Paris les 26 et 27 octobre prochains. Il est 9h46. Merci à tous d'écouter France Inter. Charline Vanhoenacker nous a rejoint à l'épisode.
Non.
Enfin, elle fait semblant. Bref, pas grave, je lance quand même sa chronique. On verra bien ce qu'il y aura derrière.
Mais moi, je suis là, oui.
Charline, voilà. Il y a Daphné Burki, il y a sa nouvelle tête. Charline, l'épisode le plus haletant des municipales, selon vous, il se déroule à Nice, entre le maire sortant, Christian Estrosi, et son ancien collaborateur et ami, Éric Ciotti.
Oui, Éric Ciotti veut piquer les clés de la ville à Estrosi. C'est fou, cette passion qu'il a pour la serrurerie, quand même. Alors, Estrosi et Ciotti ont été amis pendant plus de 20 ans et aujourd'hui, ce sont des frères ennemis puisqu'ils s'affrontent âprement pour ravir Nice. C'est un petit peu les Romulus et Rémus de la promenade des Anglais ou les Abel et Carré de la Pissaladière. Normalement, quand un vieux couple se déchire, on demande au juge aux affaires familiales de trancher. Mais pas à tous les concitoyens d'une ville, quand même. Mais là, si les Niçoises ont l'embarras du choix entre le mec de droite qui a trahi pour passer au centre ou son pote de droite qui a trahi pour passer à l'extrême droite. Ciotti n'applique pas le logo du RN sur ses affiches, hein, parce que le premier tour étant dans un mois, il peut encore changer deux fois d'alliance d'ici là. Ciotti a fondé l'UDR, l'Union des droites, alors que son ennemi juré, je rappelle, c'est quand même un mec de droite. Il aurait dû appeler ça l'Union des droites, mais surtout pas avec ce tocard de Christian, si on veut être bien précis. Estrosi et Ciotti, ils ont tout fait pour rentrer dans un gouvernement Macron, et ils y sont jamais arrivés. Ils se sont tous les deux trahis par Macron, en fait. Et là, c'est le moment où il y a une partie de ceux qui nous écoutent sont en train de se rendre compte qu'ils ont un gros point commun avec Estrosi et Ciotti, du coup. Non, moi, j'ai lu dans l'Obs qu'Estrosi appelle Ciotti le Donald Trump aux petits pieds. C'est une insulte, mais à mon avis, Ciotti prend ça comme un compliment. Il fait « Ouais, je chose du 28, mais je suis comparé à Trump. » Il fait tout pour lui ressembler. Maintenant, quand il fait des rassemblements, il distribue des casquettes. C'est son côté magapaka. Make Provençal Côte d'Azur great again. Mais sa casquette, à lui, elle est jaune. Alors, il copie les ultra-conservateurs américains, mais le résultat, c'est qu'il ressemble à un représentant de chez Ricard. Voilà. Bon, au moins, comme ça, il n'annexera pas Monaco. Alors, il y en a un qui veut ressembler à Trump et l'autre qui se prend pour Kennedy. Quoique Estrosi, c'est plutôt Ronald Reagan, je dirais. Ah, il y a un air. Hein. Bon, quant à Estrosi, c'est plutôt... c'est une tête de... Vous voyez quoi, c'est... C'est une tête de liste. Mais vous pensiez à quoi, vous? J'ai vu à votre tête, elle pensait à mal. Si, si. Chaque jour, on voit un soutien de Ciotti passer... Revenez, Sonia, revenez. Je sais pas, elle devait avoir le mot gland en tête, je sais pas. Chaque jour, on voit un soutien de Ciotti passer chez Estrosi pendant qu'un soutien d'Estrosi passe dans le camp de Ciotti. Pour des gens qui n'aiment pas l'immigration, faudrait qu'ils pensent à renforcer les frontières de leur permanence, peut-être. Alors, parmi les soutiens d'Estrosi, il y a Gérard Holtz et Denise Fabre. Ah bah manque plus que Garcimore. C'est Léon Zitrone et Simone Garnier n'étaient pas disponibles apparemment. Alors si vous avez moins de 45 ans, vous voyez pas de qui je parle, c'est des anciennes vedettes de la télé. Voilà, Denise Frappe, c'est un petit peu la Daphné Burki des années 70.
Qu'est-ce que je viens foutre là?
Et ça tombe bien parce qu'Estrosi promet 10 000 caméras de surveillance à Nice. Il vise une caméra pour 36 habitants. Son programme, c'est la baie des anges de la télé-réalité, en fait. Et hop, là, on récupère les jeunes, vous voyez. Donc aujourd'hui, ce duel entre Ciotti et Estrosi est le symbole de ce qu'est devenu la droite. Donc on se demande bien comment la gauche va se débrouiller pour réussir à encore perdre cette fois-ci, vous voyez.
Les magapaka par Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Ah oui, et il est 9h50 et nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Laze. Elle est rappeuse, c'est une grande rappeuse. Elle a commencé à 16 ans en déboulant sur YouTube avec des reprises et des freestyles. Et elle s'est fait connaître d'un plus grand public en allant jusqu'en finale de la première saison de l'émission Nouvelle Tête, la Star Academy du rap. Aujourd'hui, elle ouvre son prologue. Elle ouvre un nouveau chapitre, un EP qui s'appelle Femme, un rap clair, un rap qui énonce, un rap qui dresse l'addition. On écoute.
Combien ça coûte d'être celle qui doit faire attention à son père, ou bien celle qui cherche à travers son homme les restes de son père? Combien ça coûte d'être insulté quand on montre un bout de chair, quand le prédateur nous fait croire que la paix c'est de se taire? Combien ça coûte?
Bonjour Laze, bienvenue sur France Inter, comment ça va?
Merci, bah ça va. Contente d'être ici.
Moi aussi, je suis très contente de vous présenter aujourd'hui aux éditeurs de France Inter. Combien ça coûte? C'était votre humeur de ce matin?
Oui, c'était mon humeur, c'est savoir combien tout ça coûte.
Combien ça coûte de me balader dans la rue en serrant ses clés? C'est moi qui paye le fait de vouloir être bien plus que le quota, ça ce sont vos paroles. Mais c'est pas seulement des punchlines, c'est des questions très concrètes. Combien ça coûte de tenir debout et combien ça coûte, Laze, de ne pas rentrer dans les cases?
Ben, ça coûte de la détermination, ça coûte parfois son mental, mais ben, je suis contente que ça coûte. Par la suite, il y a quand même une certaine récompense. Donc,
Ça rapporte. Ça coûte, mais ça rapporte.
Exactement.
Cet EP, il s'appelle Femme, mais ça s'écrit F-A-2-M-E. Pourquoi
Il s'appelle Femme parce que j'ai voulu en fait réécrire ben, la femme sous moi, mon angle, sous ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Donc je me suis dit, bon, il y a un E, je vais mettre le A et je vais réécrire l'histoire complète.
Et il y a de si très beaux titres dans cette EP.
Merci.
Dont un titre important où tout est posé avec une fermeté tranquille, ça s'appelle Black Woman. Et c'est le titre que vous avez choisi d'interpréter ce matin au micro de France Inter.
Exactement.
C'est à vous, Laze.
Je suis noire, la nature de mes cheveux n'est pas lisse. J'ai l'intelligence d'Angela Davis. J'essaye d'éviter tous les vices, des produits qui font qu'elles s'éclaircissent. Moi j'en parle parce que je connais les risques. Faut voir la richesse dont on hérite. Pour le comprendre j'ai fait ce long périple. Je suis fière parce que ma peau le mérite. Et les traits de mon visage font ma force. C'est la taille de ma bouche qui fait mon charme. Parfois je me sens blessée, trahie par les miens, mais c'est souvent la sagesse qui me soigne. Ils aimeraient voir une angry woman, c'est en montrant le contraire que je gagne. Je suis forte, belle, je suis comme Angélique quand le monde entier me regarde. Je prends la réussite comme anti-stress. On me ferme les portes, j'arrive à grande vitesse. Je veux pouvoir être celle qui parle à son peuple même quand elle voyage en classe business. Que toutes les petites filles qui doutent se transforment toutes en celles qui rêvent. Ne fais pas partie de celles qui se taisent, car on retiendra que celles qui se lèvent. Black woman, black woman, black woman. Black woman.
Ces mots-là, est-ce que vous, peut-être que vous ne les trouviez pas, enfant, dans le rap, est-ce que vous écrivez des textes que vous auriez aimé entendre plus jeune?
Enfin, c'est ça en fait, c'est la volonté de... J'ai l'impression que je n'entendais pas... J'avais pas ce... Enfin, ce que je ressentais, bah, je l'entendais pas. Et par la suite, même moi, j'ai mis du temps à écrire bah, ce que je voulais vraiment entendre et ce qui pouvait m'aider.
Et ce rap, encore une fois, il s'adresse à toutes et à tous. Mais dans l'industrie du rap, vous le savez, le marché est un peu moins saturé par les femmes. Il y a encore pas mal de sujets à aborder, on peut le dire. Et donc, vous utilisez votre rap, et ce que j'adore, comme un manuel de survie, ou peut-être un peu comme un code d'honneur, surtout quand vous écrivez 12 règles.
Rule number one, be a boss's bitch. Va jamais voir ton ex qui veut que tu t'expliques. Règle numéro 2, il est full technique. Pour te cacher, il va te mytho sur problème ethnique. Règle numéro 3, il a plein de complices. Donc méfie-toi toujours de tous les liens que tu tisses. Pour la règle numéro 4, si tu fouilles dans son tel et que c'est écrit I love you,
c'est pas la trajectoire.
J'adore Laze parce qu'elle prend un peu le rôle de la meilleure amie qu'on aimerait avoir. Elle dit par exemple, mets toujours tes projets avant un mec pour ne jamais te cracher sans airbag. Il y a une sororité fondamentale dans vos sons.
J'ai mis du temps à la... Enfin, j'ai pas mis du temps à l'avoir, je l'ai toujours eu, mais je trouve que dans ce projet-là, en fait, je suis décomplexée de ça. Et en fait, j'ai vraiment envie que les femmes se sentent concernées et qu'elles se sentent comprises, parce qu'elles en ont besoin, je pense, dans l'ère dans laquelle on est.
Vous m'avez dit que The Truman Show, c'était le film qui vous représentait vraiment en ce moment. Alors, on entend la musique composée par Philip Glass, et je re-raconte, c'est l'histoire donc de cet homme qui découvre que toute sa vie est observée, mise en scène, commentée. Et vous parlez souvent de votre hypersensibilité, que je sens encore ce matin au micro de France Inter, et qui, pour moi, est cette capacité, finalement, à capter très vite tout ce qui se passe autour de nous, autour de vous. Cette hypersensibilité que vous avez, que vous mettez dans vos textes, est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites encore que c'est une fragilité ou que c'est une grande force ?
C'est une grande force pour moi parce que je pense que bah, sans cette sensibilité, je serais pas... En fait, j'irais pas toujours chercher plus loin dans ce que je ressens, dans ce que j'ai envie de montrer aux gens. Et surtout, c'est quelque chose qui montre que je suis vraie et j'ai pas de masque en fait.
Vous n'avez pas de masque et je vais raconter un petit peu parce que Laize, elle s'appelle Leslie, elle est née en 97 à Verdun, une mère éducatrice dans la protection de l'enfance, un père footballeur et petite, vous écoutiez Fally Ipupa. Plaisir d'écouter Fally Ipupa ce matin. Même si votre frère vous faisait écouter beaucoup de rap, c'est peut-être lui l'initiateur dans l'histoire et qui est aujourd'hui devenu votre manager, qu'on salue, qui est en régie. Et vous avez grandi à Reims et j'ai bien regardé. Vous êtes devenue la figure de proue du rap de Reims parce qu'il n'y en avait pas. J'ai cherché. Il n'y a pas de rappeur qui vient de Reims.
Il y en a.
Il y en a.
Mais c'est vrai que.
C'est une grande responsabilité, Laize.
J'avoue. C'est vrai que je suis la seule fille qui est un peu connue.
Champagne, j'ai envie de dire. Champagne. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé une carte blanche et j'aime trop ce que vous avez choisi. Vous avez décidé de reprendre Édith Piaf, La Foule, parce que je l'explique, vous avez commencé comme ça par des reprises que vous postiez sur YouTube. Sauf que là aujourd'hui, ça se passe au micro de France Inter. Ça vous va ?
Oui.
Laize, le micro est à vous.
Laize. Je revois la ville en fête en me déplaçant dans la foule, suffoquant sous le soleil mais sous la joie de le retrouver. Je crois que son sourire m'a guéri, je m'en fous d'être frappé par la foudre, car même l'amour qui brille c'est une braise qui peut s'essouffler. L'impression d'être la raison de toutes les messes basses que j'entends. Les gens pieux disent que mon cœur est plus qu'en danger dans ses mains, mais l'innocence qui m'habite ressemble à celle d'un enfant qui ne comprendra jamais que toutes ces belles valses ont une fin. Laize.
Bravo.
Merci Laize.
Merci.
Pour ce cadeau ce matin au micro de France Inter, est-ce que vous avez une petite dédicace avant qu'on se quitte ?
Dédicace à toutes les femmes. Voilà.
Vous m'avez dit que vous aimeriez avoir le super pouvoir.
Même Nadine... À ma mère, à ma manageuse.
Même Nadine Morano.
Non, elle veut protéger. Vous m'avez dit que le super pouvoir, vous voulez protéger toutes les femmes de toutes les violences. Et ce matin, c'était Laize et je vous conseille son EP qui s'appelle Femme, F-A-2-M-E. Et elle s'appelle Laize, L-E-Y-S. Merci beaucoup.
Merci Laize.